les livres plein les oreilles est en vacances, mais non, surtout pas l'été, n'est-ce pas le meilleur moment de découvrir des livres en les écoutant? Qu'en pensez-vous? Vous trouvez qu'il est difficile de faire des choix et de vous y retrouver dans tous les catalogues? Je suis là, je m'appelle Clotilde Seil. Cette semaine, on va commencer par une nouveauté chez Audiolib, complètement déjantée, de type, ça c'est très français, vous allez voir, Cozy Mystery. Et puis c'est l'univers de Maxime Chatham qui fera l'objet du segment Le Frisson de l'été, histoire de faire craquer nos papilles gustatives, un tour du monde en cuisine et le roman québécois que vous avez peut-être raté, Ce qu'on respire sur Tatooine, une production d'Audio. Oui, oui, c'est une programmation pour des lecteurs en vacances ou peut-être pour d'autres qui bossent, peut-être, mais qu'en profite quand même de l'été. Nouveauté de type Cozy Mystery, c'est comme ça que c'est présenté sur le site d'Audiolib qui a produit ce livre qui s'appelle « Comment j'ai tué ton mari ». Finlay Donovan est mortel, c'est le tome 1, autrement dit, il y en aura d'autres et c'est lu par Nancy Philipot. Rien ne va plus pour Finlay Donovan, qui est une autrice de romans policiers qui peine à décoller, mère célibataire, qui a deux gamins, le livre qu'elle a promis à son agent, il n'est même pas encore commencé, son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler, enfin bref, tout va mal. Et puis un jour, elle déjeune avec son agent pour discuter de l'intrigue de son nouveau manuscrit et leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et elle lui glisse un mot dans son sac et elle lui offre 50 000 dollars pour la débarrasser d'un mari un peu trop encombrant. Voilà, mais sauf que Finlay, c'est pas une tueuse. Mais mettons que cette somme réglerait bien des problèmes. Oui, ça c'est vraiment à lire en été. Une lectrice auditrice a écrit sur Babelio, lorsque j'ai vu qu'Audible proposait dans son catalogue, comme Audiolib d'ailleurs, qui l'a produit, « Comment j'ai tué ton mari », je ne m'attendais pas à rire autant. Mais que ce roman aux allures de comédie m'a fait un bien fou, surtout avec pour lectrice Nancy Philipot. On en écoute un extrait.
L'étrange tour pris par cette conversation me laissait perplexe. Et puis, en baissant les yeux, j'ai vu le chiffon ensanglanté sur mes genoux. Le couteau et le rouleau de gaffer hérissé de cheveux, bien en évidence dans le sac à langer. J'ai repensé à la pâleur de cette femme, au regard furtif qu'elle jetait à mon sac, à mes pieds, tout en épiant notre conversation. On règle son compte au sale type, notre sympathique amie dévoile la profondeur de sa gratitude, tout le monde vit heureux jusqu'à la fin des temps et tu empoches un gros chèque.
Oh, putain!
Je ne signerai rien en dessous de 50 000 pour le suivant. Règle d'abord son compte à celui-ci, et on reparlera du suivant en temps voulu.
Oh non! Non, non, non!
J'ai fourré le linge dans le sac. Mais cette fichue note, qu'allais-je en faire? La balancer quelque part? La brûler? Retourner chez Panera, la réduire en charpie et la jeter dans les toilettes? Je l'ai froissée en boule et j'ai baissé la vitre. Plus vite je m'en débarrasserai, mieux ce serait. Mais quelque chose me retenait de desserrer mon poing au-dessus du goudron. 50 000 $. J'ai remonté la vitre et glissé la note dans ma poche, tout en tournant la clé dans le contact. Mon cœur s'était emballé. En sortant du parking, j'ai pris soin de mettre le clignotant, de respecter les limitations de vitesse. Que se passerait-il si un policier m'arrêtait, me fouillait et tombait sur cette commande particulière ? Mon historique de recherche sur Google m'aurait, à lui seul, probablement valu de figurer sur la liste noire d'une agence gouvernementale. J'écrivais des romances à suspense dans lesquelles j'imaginais des meurtres comme celui-ci. J'avais fait des recherches exhaustives sur les 1001 façons d'éliminer quelqu'un, avec toutes les armes possibles et imaginables. J'avais aussi cherché tous les moyens possibles de se débarrasser d'un corps. Cette histoire était ridicule. Et je l'étais tout autant de flipper pour un bout de papier à la noix. Personne ne pouvait me suspecter d'un crime qui n'avait pas encore eu lieu et auquel il était hors de question que je sois mêlée. Si cette bonne femme tenait tant à se débarrasser de son mari, elle pourrait trouver quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot. Et moi, je pourrais continuer avec... Oh. Mes mains se sont crispées sur le volant. Cette femme n'avait pas eu l'air de plaisanter. 50 000 $, ça n'avait rien d'une plaisanterie, non? Que se passerait-il si elle dénichait quelqu'un d'autre pour le faire? Pouvais-je devenir une suspecte? Ce n'était pas exclu. Sauf si... J'ai jeté un œil dans le rétroviseur et je me suis fondue dans le flux de véhicules sur l'autoroute. Et si personne ne trouvait de corps? Si personne n'avait la certitude que ce Harris Mickler était mort? Il n'y aurait pas forcément de suspect, n'est-ce pas? Dans ma tête, j'entendais presque Steven me dire que j'étais ridicule, que j'imaginais le pire, que j'inventais des histoires. C'était l'argument qu'il invoquait systématiquement, et celui qu'il m'avait servi quand j'avais commencé à le soupçonner de coucher avec Teresa. Sauf que cette fois, il avait raison, et je détestais l'admettre. J'ai giflé rageusement le volant. Pourquoi me laissais-je entraîner dans ces élucubrations? Dans ma vie, j'avais de vrais problèmes à résoudre. Une date butoir qui se rapprochait dangereusement et que j'allais devoir gérer sans babysitter ni nouvelle avance. Des traites de voitures en retard, les appels incessants d'agents de recouvrement. Et ce délire autour de Harris Mickler. Une histoire de fou, complètement tordue. Une histoire à 50 000 $. Un coup de klaxon m'a tiré en sursaut de mes cogitations et j'ai légèrement accéléré pour me mettre au diapason de la circulation. Le mieux, ai-je décidé, serait de bazarder ce bout de papier par la vitre et d'oublier cette histoire. Je me suis mise à tapoter le volant. J'ai allumé la radio. Je l'ai éteinte. J'ai vérifié ma vitesse en franchissant le portique du péage automatique. Rien à faire. Les mots de cette femme continuaient de tourner en boucle dans ma tête. Mon mari, ce n'est pas quelqu'un de bien. Qu'entendait-elle par là? Que lui reprochait-elle? D'oublier systématiquement leur anniversaire de mariage? Ou de coucher à droite à gauche? Même si votre mari se tape votre agente immobilière, ce n'est pas une raison pour vouloir sa mort. On pourrait légitimement, à la rigueur, lui souhaiter de s'auto-émasculer accidentellement avec un débroussailleur, ou de contracter une atroce maladie vénérienne dont les symptômes incluent les mots « éjaculation brûlante ». Mais tuer un homme au motif qu'il est infidèle, ce serait mal, n'est-ce pas?
Je vous rappelle le titre, ça s'appelle « Comment j'ai tué ton mari » de L, s'écrit L, E-2-L-E, Cosimano, et c'est lu par Nancy Philippot ou Philippot, et ça a été produit par Audiolib. Tiens, puisqu'on est dans le polar, là on va faire dans le polar un peu plus sombre, un petit peu moins ravissant que ce qu'on vient d'entendre. C'est le prix du roman fantastique du Festival de Gérardmer, et c'est In Tenebris, c'est le titre du tome 2 de cette trilogie du mal, écrite par Maxime Chattam, c'est lu par Mathurin Voltz. Chaque année, des dizaines de personnes disparaissaient à New York dans des circonstances étranges. La plupart d'entre elles ne sont jamais retrouvées. Julia, elle, est découverte, vivante, scalpée, entre autres services, et prétend s'être enfuie de l'enfer. On pourrait croire à un acte isolé s'il n'y avait ces photos, toutes ces photos. Jeune détective à Brooklyn, Annabelle O'Donnell prend l'enquête en main, aidée par Joshua Brolin, spécialiste des tueurs en série. Quel monstre se cache dans les rues enneigées de la ville? Et si Julia avait raison, et si c'était le diable lui-même? Ce mystère, ce rituel, dans une atmosphère apocalyptique, Joshua et Annabelle vont bientôt découvrir une porte. Un passage dans les ténèbres. C'est un suspense qu'on ne peut lâcher, ça va changer votre perception de la nuit et ça pourrait bien changer, je pense, votre perception de l'été, et puis sans compter que c'est quand même 3 bouquins, la trilogie du mal. Alors, allons-y, plongeons avec cet extrait. Vous allez voir, il a le souci du détail dans ses descriptions, monsieur Maxime Chattam.
Du milieu de la carlingue, une boule s'éleva et avala instantanément tout l'appareil. Les hublots éclatèrent, la coque se déchira et la voilure des ailes se volatilisa à mesure que les réservoirs de kérosène étaient bus par l'explosion. L'empennage gigantesque aux couleurs de la compagnie se brisa, et se fractionna en milliers de copeaux embrasés. Les 16 tonnes des quatre moteurs Rolls-Royce RB211 se répandirent dans le ciel à plusieurs kilomètres de distance en un clignement de paupières. Les 4,5 millions de pièces formant le vol CO4133 furent pulvérisées presque sans un bruit. 9150 mètres plus bas, un garçon de 15 ans était allongé dans un pré. Le babil aérien des oiseaux et la crécelle discontinue d'un grillon s'élevaient en rythme autour de lui, seules irrévérences au silence environnant. Un brin d'herbe passait entre ses lèvres, il pensait à Jessica, la fille assise juste à côté de lui en cours de maths. Ses yeux étaient absorbés dans la blancheur des nuages quand il crut voir un point lumineux au-dedans. Ce fut court, mais tellement intense qu'il se demanda s'il ne s'agissait pas d'une sorte de phare spatial pour navette perdue. Puis, comme le phénomène ne se reproduisait plus, il l'oublia bien vite et replongea dans ses rêves d'adolescent. Quand il entendit parler de la catastrophe aérienne aux infos, plus tard dans la soirée, il ne fit pas le moindre rapprochement. 312 passagers et membres d'équipage moururent sans un témoin, anonymement. Lorsque la neige des Rocheuses fut nappée de pourpre, comme si l'on avait attendu le crépuscule pour parler de la mort, une conférence de presse fut organisée. Il y avait des membres du NTSB, le National Transportation Safety Bureau, chargés d'enquêter sur les accidents d'avions civils, et de la FAA, la Federal Aviation Agency, l'aviation civile, ainsi que quelques représentants de la compagnie aérienne. Du bout des lèvres, on avoua ne pas comprendre ce qui s'était produit. On prononça les termes « accident regrettable » et « avarie technique » comme un préambule d'excuses avant d'affronter les familles. Même après plusieurs années de recherche, la cause de l'incident resta inconnue. L'hypothèse d'un court-circuit demeura longtemps la piste privilégiée sans pour autant être vérifiée. On ne sut jamais. Certains chuchotèrent qu'une force terroriste d'extrême droite, protégée par des éléments du gouvernement, avait fait le coup. D'autres murmurèrent que c'était le chaos qui l'avait voulu ainsi. D'autres encore dirent le mal. Des rumeurs. Les conséquences de ce drame allaient néanmoins dépasser en horreur tout ce qui s'était fait jusqu'à présent. Du fait de cette explosion, un carnage plus sanglant encore allait commencer. Un monstre venait de sortir de sa pupe pour lentement arriver à maturité. La destruction de cet avion n'était rien de moins qu'une clé. Un passe vers l'indicible, vers un être différent. Un tueur sans cadavre. Un tueur sans nom. Une ombre. Au sommet de la société, au-delà des hommes. Invisible.
C'est pas rose, mais avouez que ça donne envie, hein, ça me donne envie, moi, de me plonger là-dedans, peut-être même cet été. Allez savoir. La trilogie du mal, c'était un extrait du tome 2 qui s'appelle In Tenebris, écrit par Maxime Chattam et lu par Mathurin Voltz. Complètement différent maintenant, le plus grand menu du monde, ça aussi c'est une nouveauté, je la trouve très estivale, c'est de Bill François, c'est lu par lui-même, c'est un livre à dévorer, nous dit-on, pour réenchanter nos repas, changer nos regards sur la biodiversité qui nous nourrit. Chaque chapitre est un plat dont les ingrédients nous racontent la face cachée de leur existence. Quelle merveilleuse idée! Nul besoin de parcourir des jungles lointaines pour rencontrer des merveilles de la nature, il suffit de regarder dans nos assiettes. Et c'est avec humour et poésie que Bill François convie à notre table les espèces insoupçonnées qui peuplent nos plats quotidien, des cachalots qui épicent nos légumes à la mouche qui a inventé le fromage, en passant par la pistache dont il va être question d'ici quelques secondes. Et je voudrais vous prévenir, la narration de Monsieur Bill François peut vous surprendre. Monsieur, c'est pas un narrateur, c'est évident, mais c'est lui qui a écrit ce bouquin-là. Et très rapidement, vous allez voir qu'elle devient sympathique. Mais je vous le dis, là, au départ, vous allez vous dire, oh là 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 là, ça va être long. Non, non, laissez-vous porter, surtout par l'histoire qu'il nous raconte. C'est vraiment formidable.
Où tout commence avec des pistaches. Si notre repas débute aujourd'hui par des pistaches, c'est parce que, grâce à elles, vous pouvez lire ce menu. Grâce à une pistache en particulier, une petite pistache comme les autres, qui naquit sur un pistachier de l'Empire ottoman à l'automne 1701. C'est elle qui nous a tout appris. Au moment où elle fut cueillie et plongée dans un sac de toile parmi des centaines de ses semblables, notre pistache s'imaginait déjà vendue, puis grillée et croquée sur quelques tapis d'Orient, entre deux rasades de thé à la menthe. Un destin banal de pistache. Mais ce jour-là, un client inattendu s'arrêta devant l'étal du bazar. C'était un voyageur. Il avait l'air de venir de loin et regardait avec émerveillement le tas de fruits secs. L'homme se nommait Tournefort. De toute sa carrière de botaniste, il n'avait jamais vu pareilles amandes vertes. Fier de sa trouvaille, il acheta la pistache sans même marchander, se promettant que dès son retour, il la planterait dans le jardin du roi. Le roi Louis XIII était souvent malade. Dans l'espoir de trouver de nouveaux remèdes, il avait confié à ses médecins le soin de consacrer un immense terrain à l'étude des plantes dans l'est de Paris. Si les guérisseurs ne découvrirent médicaments miracles, ils créèrent un jardin fabuleux qui perdura à travers les siècles. À l'époque où Tournefort y planta sa pistache, le jardin du roi était devenu un lieu de science unique en son genre, où se mêlaient avant l'heure recherche et diffusion des connaissances. Dans ces allées, ouvertes à tous, des botanistes voyageurs contaient aux passants leurs découvertes, en français et non plus en latin, pour que chacun puisse les comprendre. Sous les serres et sur les plates-bandes, des végétaux de pays lointains exhalaient leurs arômes nouveaux. Les visiteurs affluaient, friands d'interroger les experts sur la vie secrète des végétaux. Croissance des arbres, remèdes et poisons mystérieux, tous les sujets prêtaient à de merveilleux récits. Tous les sujets, sauf un, les fleurs. S'il détestait autant parler des fleurs, c'est que les savants se doutaient de quelque chose. Ils avaient remarqué que quand deux arbres similaires poussaient non loin l'un de l'autre, leurs fleurs se transformaient en fruits, d'où germait une descendance. Mais l'idée que les végétaux puissent se reproduire entre eux via une sexualité, comme les bêtes et les humains, leur semblait odieuse. Comment des êtres aussi purs que Lys et Pâquerette pouvaient-ils se vautrer dans de si vils péchés? C'était abominable, trop affreux pour même l'envisager. Les experts préféraient refuser de l'admettre et se convaincre que les fleurs ne servaient à rien, avec la bénédiction des ecclésiastiques que cette théorie arrangeait bien. Nul ne pouvait donc à l'époque comprendre les amours des plantes. Ne sachant élucider leur biologie, on ne pouvait entrevoir leurs histoires. Pour l'homme qui refusait de les écouter, les fleurs demeuraient muettes, condamnées à s'aimer en cachette. Mais la pistache allait tout changer. Choyée par les jardiniers du roi, la graine venue d'Orient prit racine dans le sol parisien. Elle devint vite un solide pistachier, un bel arbre qui fleurissait chaque année en longues grappes de fleurs vert pastel, dont jamais une seule ne donnait le moindre fruit. Le pistachier avait 16 ans quand ses floraisons attirèrent le regard d'un rêveur qui flânait dans le jardin, en avril 1717. Ancien élève de Tournefort, Sébastien Vaillant était préoccupé par la question des fleurs. Vaillant était de ces personnes, nous en connaissons tous, qui, lorsqu'une pistache refuse de s'ouvrir à l'apéritif, ne la remettent pas discrètement dans le pot pour en prendre une autre. Il était de ceux qui s'acharnent, se cassent les ongles, tordent le couteau, mais n'abandonnent pas. Le mystère des fleurs n'allait pas longtemps lui résister. Lorsqu'il aperçut le pistachier, Vaillant se mit en quête d'un autre arbre de la même espèce. Il en trouva un quelques rues plus loin, au jardin des apothicaires, qui portait des fleurs légèrement différentes. Ce pistachier non plus ne donnait jamais de fruits. Le botaniste eut l'idée d'aller secouer un rameau de fleurs de l'un des arbres au-dessus de celle de l'autre. Quelques semaines plus tard, il récoltait triomphalement des pistaches tout à fait locales et avec elles, la preuve scientifique irréfutable de la fécondation des plantes. Vaillant relata sa découverte devant l'Académie des sciences en un discours au vocabulaire fleuri. Les fleurs sont le sexe des plantes, déclara-t-il d'emblée, avant de comparer pistils et étamines aux organes génitaux femelles et mâles des animaux et de décrire les ébats amoureux des arbres et leur violent transport, des termes extrêmement osés pour l'époque. La pistache de Pandore était ouverte, la vérité dévoilée au grand jour. Dorénavant, les hommes comprenaient l'intimité des plantes. Peu importait finalement à Vaillant, ruiné, qu'il n'ait plus les moyens d'acheter de la viande, puisque désormais le moindre légume de son bol de soupe lui murmurait tous ses secrets.
Ah, je trouve ça tellement sympathique. J'imagine que tous les chapitres ressemblent à celui-ci et ça me donne vraiment l'envie d'écouter ce bouquin-là cet été. Un autre qui m'a échappé, c'est pour ça que ça m'a donné l'envie de vous le présenter sous la rubrique Le roman québécois qui vous a échappé, comme à moi. Ce qu'on respire sur Tatooine, écrit par Jean-Christophe Réel, lu par, entre autres, Marc-André Grondin, Catherine Brunet, Marianne Fortier, Gaston Lepage et plusieurs autres comédien, c'est produit par Audio, donc de chez Radio-Canada. La route est longue d'un sous-sol de Repentigny jusqu'à la planète Tatooine, surtout si l'on passe par le Super C, Central Park et le 16e étage du CHUM. Mais pour l'esprit obsessif, rêveur et décalé du narrateur, ces détours sont autant d'aventures salutaires, nous dit-on dans le résumé sur Audio. Après des recueils remarqués dont Les Volcans sentent la coconut, finaliste au prix des libraires en 2016, et La fatigue des fruits, Jean-Christophe Réel explore dans ce roman hors norme, touchant et drôle, les thèmes qui lui sont chers, la solitude, la fatigue et la maladie. Un lecteur dans Babelio a écrit « Je n'ai pas de mots qui pourraient vraiment décrire mon émotion sur ce roman. Au fur et à mesure que je tournais les pages, j'ai vraiment été captivé par les pensées du personnage principal et ainsi être transporté dans la vie quotidienne d'un homme avec de sérieux problèmes de santé. Je suis passée de fou rire à imaginer ses pensées à des moments où je me sentais très inconfortable, mais il y avait toujours une lueur d'espoir dans ses paroles. » Extrait de « Ce qu'on respire sur Tatooine ».
Ce qu'on respire sur Tatooine. À chaque nouvel job, je fais semblant de comprendre ce qu'on me dit. Je fais semblant d'avoir fait ça toute ma vie. Mais c'est pas long que je me fais démasquer. Les employeurs réalisent vite qu'ils ont affaire à un imposteur. Et je me retourne. Une jeune femme toute petite me sourit. Elle a des lignes de maquillage ses yeux. Je remarque que de petites pointes noires dépassent de chaque côté de ses paupières. On dirait un oiseau. Son visage me fait penser à celui de Natalie Portman. C'est la reine Amidala dans Star Wars.
Mireille, un empêchement? C'est moi qui fais ton training à soi.
Elle sourit encore. Chaque fois qu'une femme me sourit, je tombe amoureux. Je suis comme ça. Je m'invente des histoires, des maisons, des bébés. Je suis lourd. Amidala se présente. Je pense qu'elle s'appelle Julie ou Sophie. Mais ça n'a pas d'importance, là. Je l'oublie aussitôt. Pour moi, c'est Amidala.
Radio-Canada, Audio. Ce qu'on respire sur Tatooine. Épisode 1. Petit Anakin. Cette histoire commence sur une planète lointaine. Dans un centre d'information touristique à Repentigny. Notre héros ne le sait pas encore, mais il est l'élu qui ramènera l'équilibre dans la force. Dans son périple, il vivra de la joie et de l'amour, mais également de la tristesse et de la colère. Cette histoire s'intéresse à l'humanité d'un Jedi qui ne cherche au fond qu'une seule et unique chose. Bonheur. Les journées sont longues.
premier quart de travail, j'ai pensé me faire harakiri entre les revues de chasse puis les guides touristiques de la Mauricie. Je l'ai pas fait. J'ai jamais eu une job d'été aussi plate. Je pensais pas réussir à me faire engager dans un bureau d'information touristique. Mais malheureusement, j'étais le seul candidat. Il y a personne. Je place des brochures, je passe le balai, je regarde le plafond. Une fois de temps en temps, Charles, le gardien du parc, vient me rendre visite.
Salut.
Il me jase. Je peux lui parler de Star Wars puis de ma fixation pour la planète Tatooine. Je pense à ma vie. Je suis pas original, là, tout le monde pense à sa vie. Mais je me demande ce que je fous ici. J'étudie le mandarin depuis 2 ans. J'écoute la TV chinoise chaque soir. J'ai commencé à triper sur l'Asie après avoir vu Tigre et Dragon avec Chow Yun-Fat. Quand j'y pense, c'est absurde de vouloir travailler en Asie à cause d'un film. J'aimerais ça être interprète là-bas. Mais ça n'a pas vraiment rapport. J'ai 31 ans, j'ai pas de blonde. J'ai jamais vraiment eu de blonde. Ben, j'ai embrassé quelques filles. Un gars aussi, une fois. Il embrassait vraiment bien. Ben non, c'est vrai, j'ai eu une blonde pendant 2 ans. Je suis même allé dans le sud une fois avec elle et ses parents. J'ai pas été en amour bien souvent. Une seule fois, je pense. Puis c'est pas la fille avec qui je suis allé dans le sud. J'ai eu des coups de foudre pour des milliers de regards, des milliers de sourires, des milliers de mentons. J'ai eu des pincements au cœur, des déceptions, des envies de mourir. Des vraies envies de mourir, à pas pouvoir connaître tout le monde. À pas pouvoir embrasser tout le monde. Je me sens souvent comme un fantôme. Un fantôme qui apprend le mandarin.
C'est très, très bien fait. Ce qu'on respire sur Tatooine à écouter sur le site de Radio-Canada Audio, livre audio avec les voix, entre autres, de Marc-André Grondin et autres comédiens. Vous écoutez l'émission Des livres plein les oreilles en vacances, animée, réalisée pour vous par Clotilde Seille, appuyée par Mathieu Tessier. Restez là, oui. Gérald Cousineau va se joindre à nous. Plein les oreilles en vacances. Seconde partie, Clotilde Seille toujours au micro pour vous présenter avec quelquefois des chroniqueurs à l'occasion, des livres, ben, ma foi, ou des nouvelles qui s'écoutent bien. Et c'est pour cela que je reçois à l'instant l'ami Gérald Cousineau. Salut Gérald.
Salut Clotilde.
Alors Gérald, ben voilà, je vous ai posé la question à vous comme à d'autres. Quel serait peut-être le livre un petit peu plus estival, carrément ben, printanier, non plus que printanier, oui franchement, franchement estival que vous auriez à proposer. Et comme nous avons perdu il y a maintenant quelques semaines l'autrice Alice Munro, vous m'avez dit pourquoi pas un recueil de nouvelles de Madame Munro.
Ouais, je dirais peut-être pas que c'est une lecture estivale. Je dirais que c'est une lecture qu'on peut faire, bien sûr, toute l'année.
Oui.
Je suis pas sûr d'appeler ça une lecture de vacances, mais quand même, si vous ne lisez pas beaucoup de nouvelles, ben Alice Munro, ça reste la nouvelliste du Canada. Donc, quelques mots pour dire qu'elle est née en 1931 en Ontario, où elle est morte récemment, je pense que c'était le 13 mai, mm-hmm. Elle est morte en Ontario également, et c'est le premier écrivain canadien à avoir gagné le prix Nobel de littérature. C'est aussi, Clotilde, la première fois qu'un écrivain gagne le prix Nobel, un écrivain qui publie essentiellement des nouvelles.
Ouais, c'est fou, hein?
Parce qu'on est habitué d'avoir des romanciers prix Nobel, mais là, non. On a une nouvelliste, et je dis tout de suite qu'on a parfois comparé à Anton Tchekhov, c'est quand même quelque chose.
Oui, absolument. Absolument.
Alors, j'ai choisi un recueil de nouvelles qui a paru originalement en 2009, Trop de bonheur, Too Much Happiness. La traduction française a paru en 2013, donc l'année même où Mme Munro a reçu le prix Nobel, donc en 2013, je le répète. Alors, un recueil de Si vous en lisez régulièrement, il y en a une qui va vous accrocher, la suivante un peu moins. C'est comme ça.
Ben oui.
C'est pas forcément un livre qu'on va lire d'une page de la première à la page. C'est ça l'avantage des nouvelles. On peut déposer le recueil, bon, on y revient plus tard, etc.
Mais c'est pour ça que ça se lit bien aussi en été, parce que si on a le temps de prendre juste un petit apéro, et allez hop, tiens, on se tape une petite nouvelle de Mme Monroe. Voilà.
Ah, alors, restez là, je m'en vais sûrement me chercher un apéro et je reviens.
D'accord.
Donc, trop de bonheur de Mme Alice Monroe. Monroe, c'est le nom de son premier mari, hein. Donc, Mary Alice Monroe, nom de son premier mari. Alors, trop de bonheur, eh bien, il y a... d'ailleurs, je vais tout de suite passer à une nouvelle qui s'appelle « Visage ».
Okay.
Pourquoi? Parce que l'extrait que vous m'avez envoyé est tiré de « Visage ». Et on a là un aperçu d'une Monroe qui n'est pas toujours, folichonne. Là.
Mm-hmm.
Alors, j'aimerais qu'on l'écoute et je pourrais en parler après.
D'accord. Alors, vos désirs sont des ordres, mon ami.
Je suis convaincue que mon père ne m'a regardée, ne m'a dévisagée, ne m'a vue qu'une seule fois. Après quoi, il a pu tenir pour acquis ce qu'il y avait là. À l'époque, les pères n'avaient pas accès au théâtre violemment éclairé où naissaient les enfants, ni à la pièce où les femmes en travail étouffaient leurs cris ou souffraient à grand bruit. Les papas ne posaient les yeux sur les mamans qu'après qu'on les avait lavées, rafraîchies, puis bordées, conscientes dans les couvertures pastels de la salle commune ou des chambres semi-individuelles et individuelles. Ma mère avait une chambre individuelle, ainsi qu'il convenait à son statut social. Et cela valait mieux, à vrai dire, vu la tournure des événements. Je ne sais pas si ce fut avant ou après son premier regard sur ma mère que mon père vint se planter devant la vitre de la pouponnière pour m'apercevoir. J'ai tendance à croire que ce fut après, et que lorsqu'elle entendit ses pas devant sa porte, puis traversant sa chambre, elle y perçut de la colère sans savoir encore ce qui avait pu la causer. Ne venait-elle pas de lui donner un fils, ce qui est censé être le désir de tout homme? Je sais ce qu'il dit. Ou... ce qu'elle m'a raconté qu'il dit. Une portion de steak haché. Puis, ne compte pas rapporter ça à la maison.
Oh là là.
Oui, hein, parce que... enfin, je vous laisse continuer. Il est là, oui.
C'est dans la nouvelle nommée Visage, et le narrateur est un homme. Et il est né avec une grosse tache de naissance sur l'une de ses deux joues. Et quand le père le voit dans la pouponnière, ben, une portion de steak haché. Et le pire, c'est quand il dit « Tu ne vas pas rapporter ça à la maison. »
Ouais.
Ça, c'est son fils. Oh là là. Je reviens sur le recueil dans son ensemble pour dire que la plupart des nouvelles d'Alice Monroe, que ce soit dans ce recueil ou dans les autres, elle en a publié une douzaine, se situent dans la campagne ontarienne. Elle a quand même vécu en Colombie-Britannique et surtout en Ontario, et la plupart de ces personnages sont des femmes. Ici, nous avons un homme, donc, qui raconte son calvaire, entre guillemets, à cause de cette tâche de naissance. Et d'ailleurs, le personnage, c'est l'autre, parce qu'il va faire de la radio. Pourquoi? Parce qu'à la radio, on ne le voit pas.
Ah, ben oui.
Il voulait faire du théâtre, mais c'est délicat. Donc, il va faire de la radio. Et là, il
qu'est-ce que je le comprends? Mais non.
Bon, c'est bon pour moi, c'est d'accord, j'ai compris moi aussi.
Alors.
Donc, la plupart des personnages sont des femmes, et c'est drôle parce que quand je pensais à ça, je me disais trop de bonheur, mais les personnages dans ce recueil sont tous en quête du bonheur, ils vont le rechercher vainement, j'ai envie de dire, même éperdument. Et pourtant, quand on a terminé le recueil, on se dit, mais quel bonheur! Il a l'air de se faire plutôt rare, ce bonheur.
Ouais,
on dirait qu'il court après, mais qu'il ne le rattrape jamais. Mmh. Et il y a même un peu de cruauté. Je pense à une nouvelle, par exemple, vous avez une veuve malade parce qu'elle a un cancer, et là, elle ouvre la porte à un inconnu. Et l'inconnu va s'asseoir devant elle et va finir par lui avouer qu'il a tué ses parents et sa sœur.
Ouf.
Bon, c'est quand même quelque chose, là. Et là, incroyable mais vrai, la veuve va lui avouer à son tour, elle a empoisonné la maîtresse de son mari. On ne s'y attend pas du tout, évidemment, c'est une claque. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que donc les personnages nous surprennent. Et j'aime pas le mot punch à la fin, mais c'est quand même une nouvelle qui est surprenante de la part d'Alice Monroe, parce que Alice Monroe, Elle part toujours de du quotidien. Elle, ouais. elle traite avec une minutie du détail ses histoires. C'est incroyable. Comme Anton Chekhov faisait ouais. d'ailleurs. Elle part du quotidien. Elle met des personnages en scène, mais des personnages qui n'ont rien en apparence extraordinaire. Pas ouais. du tout. Ouais. Mais là, elle va les mettre à l'épreuve. Elle va les pousser devant l'adversité et étudier comment ils vont s'en sortir. Mmh. Mais encore une fois, ce ne sont pas des gens hors de l'ordinaire, pas du tout. Ce sont des gens qu'on remarque quand même pas dans la rue. Mais là, mmh. elle va les mettre à l'épreuve. Et c'est ça qui est bien. C'est que je m'amusais d'ailleurs, j'écoutais une nouvelle et je me dis, qu'est-ce que moi j'aurais écrit à la place? Qu'est-ce que j'aurais mis ah, ici oui? ou là? Eh bien, j'avais tort partout. Elle me battait.
À tous les bon, coups, hein?
Pourquoi elle ah. parle de ça? Mais encore là, c'est le détail qui va nous paraître insignifiant. Mais pour elle, c'est important parce que l'intrigue est secondaire, finalement, chez elle. Ce qui est ouais. important, c'est l'étude psychologique des personnages. Elle ouais. va le fouiller, ce personnage-là. Et on se dit, mais c'est vrai, ah, c'est vrai. Ouais. Le mot est juste. Il n'y a pas de fioriture littéraire ici. Le mot est juste. Ouais. Mais encore là, le bonheur, on aimerait qu'il y en ait un peu plus. Mais qui ne cherche pas le bonheur? Et ouais. le bonheur, ce n'est pas une chose forcément dans laquelle on baigne 24 heures par jour. Hein. Ouais. Donc, si vous n'aimez pas les nouvelles, mais je dirais, faites un effort quand même, parce qu'il y en a différentes et on passe d'une émotion à une autre par tous les sentiments. Mais si vous aimez les nouvelles, et on sait que les nouvelles, c'est quand même un genre mal aimé encore, hein, à côté du roman, là, et bien, je pense qu'Adèle Munro reste notre grande nouvelliste. Et bon, les gens du prix Nobel ont dit que c'était la souveraine des nouvellistes, donc c'est quand même quelque chose. Elle est traduite dans plusieurs langues. Elle est traduite dans plusieurs pays, donc on la connaît, mais au Québec, je serais curieux de savoir si elle est lue. Ouais. Parce qu'elle a été publiée aussi au Québec, chez Boréal.
Ouais,
alors, je suis
curieux
de savoir, mais si vous aimez les nouvelles, là, vous serez ravis. Mais il faut parfois faire un effort, parce que les nouvelles peuvent être longues. Il y a des nouvelles qui font quasiment 100 pages.
Alors, ah oui?
On a là comme un court roman, là. Oui, oui. C'est pas des nouvelles à l'Archambault où les nouvelles font 3-4 pages. Pas du tout. Mm-hmm. Archambault, je pense, a été aimé Alice Munro. Quand on le lit, on s'en rend compte. Mais les nouvelles peuvent être assez longues. Donc, on peut, à la rigueur, perdre un intérêt, mais il faut rester là parce que, encore une fois, elle va rebondir sur un truc qui peut nous paraître insignifiant, banal, d'une grande banalité, mais c'est après que ça se corse, c'est après qu'on se dit « Ah, voilà pourquoi elle avait parlé de ça, voilà pourquoi elle employait ce mot-là. » On est récompensé à la fin, finalement.
Eh bien, dites donc, mais c'est tout un programme que vous... Non, mais moi, je trouve ça bien qu'on en ait parlé, même si, effectivement, le mot « bonheur » est dans le titre et ne se retrouve pas, si je vous comprends bien, ailleurs dans les pages de ces nouvelles.
On a l'impression, après, qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ils le cherchent. Mais on dirait que l'auteur ou l'autrice va souligner plutôt l'absence de bonheur chez ces personnages.
Oui, mais je trouve que l'été, c'est peut-être aussi un bon moment pour découvrir toutes ces nouvelles. Et puis surtout, bon, cette autrice, et vous l'avez souligné, c'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup lu ici au Québec. Du moins, je ne le pense pas. Mon amie Faline Beaubier, qui participe parfois à cette émission, elle qui représente le CAE, ben, donc l'accessibilité des livres via les bibliothèques. Elle nous en avait parlé aussi il y a quelques semaines, peut-être même un mois ou deux, d'Alice Munro, étant elle-même ontarienne. Et donc, elle, évidemment, il y avait des choses qui se recoupaient. Et je lui avais posé une question que je vous pose à vous pour voir si vous connaissez la réponse. Je suis sûr qu'il va savoir. Il va savoir, Gérald, il va savoir. Gérald, pourquoi Madame Munro a-t-elle choisi le format des nouvelles plutôt que le format du roman dans sa vie?
Elle le dit quelque part dans une entrevue. Je pense que ça lui faisait peur, le roman. C'est comme si elle avait peur de ne pas garder l'intérêt. Elle se sentait incapable de développer un sujet aussi longtemps. Alors, la nouvelle lui a paru plus facile. Et là, je mets le mot entre guillemets, parce que ce ne sont pas des nouvelles faciles. Ce sont des nouvelles bien travaillées. Encore une fois, tout est juste. Il n'y a pas un mot de trop. Mais je pense que elle avait peut-être, ben, tant mieux pour nous, hein, parce qu'elle est devenue la grande nouvelliste qu'on sait. Mais je pense qu'elle avait un peu peur du roman. Elle avait un peu peur du roman. Mais juste une chose, parce qu'on parlait de lecture d'été ou de vacances, et je rappelle que la plupart, presque toutes ces nouvelle se déroule dans la campagne ontarienne.
Oui, c'est ça.
Alors, si vous lisez ce recueil à la campagne,
oui.
Parce qu'effectivement, rares sont les livres qu'on peut avoir au Québec où on parle de la campagne ontarienne. Mm-hmm. Et bien là, vous avez l'occasion parce qu'elle a voulu vraiment se plonger dans ce microcosme-là. Alors, on ne parle pas de Toronto dans ce roman.
Non,
c'est pas un roman urbain. C'est pas un recueil de nouvelles qui se passe en ville. Pas du tout.
Non, c'est la campagne.
La campagne profonde, je dirais. Là.
Alors, écoutez, mon ami, avant de vous quitter, deux choses. D'abord, vous dire que moi, ce que j'avais lu une entrevue avec un journaliste, elle avait dit qu'elle avait choisi la nouvelle tout simplement parce que c'était ce qui s'accordait le mieux avec sa vie familiale. C'était parfait pour la conciliation travail-famille.
Elle a eu quatre filles,
que d'écrire. Oui. Ben oui, c'est ça. Et alors, donc, ça, c'était la réponse que moi, je connaissais. Et puis, ben écoutez, c'est notre dernière, puisque vous savez que ces émissions-là sont diffusées en été, mon ami, donc un petit peu plus tard en saison. Et puis, ben voilà, ça marque votre dernière collaboration pour cette saison. Je dis bien, Gérard de Cousineau, pour cette saison. Alors, moi aussi, alors votre réponse me rassure. Alors, est-ce que je vous donne rendez-vous l'année prochaine?
Ah, ben moi, je ne demande que ça.
Oh, que c'est gentil. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir le Bristol, l'invitation, vous aurez tout ça. Je vous embrasse et je vous souhaite un bel été. Gérald.
Et à Clotilde et Mathieu.
Oui,
et toi.
Absolument. Merci d'avoir pensé à lui. Salut, Gérald.
Salut.
Alors, une autre rubrique de cette émission des livres pleins les oreilles en vacances, là, ce sera la rubrique Le Feel Good, écrit en bon français, toujours F-I-L-G-O-U-D-E de la semaine. Et le Feel Good de la semaine, c'est Les Extraordinaires de Julien Sandrel. C'était produit par Audiolib et c'est lu par Anne Le Contour. Alors, on nous dit ceci, dans l'entourage d'Anna, tout le monde le sait, à 6 ans sur l'estrade du spectacle de fin d'année, elle a clamé haut et fort qu'elle voulait être astronaute. D'ailleurs, c'est l'extrait qu'on va entendre un petit peu plus tard. 40 ans passés. Anna est bien loin des étoiles, elle est médecin généraliste et sa vie est très sage. Trop sage d'ailleurs. Et arrêtée net par un très grand chagrin. Et ce soir, un soir pour son anniversaire, eh bien, ses proches lui ont réservé une surprise. Ils l'ont inscrite, en grand secret, au concours de l'Agence spatiale européenne qui recrute ses futurs astronautes. Alors évidemment, Anna leur dit qu'ils sont fous et merci, mais elle refuse. Mais le piège affectueux est bien tendu. Un jour, Anna a promis à son plus jeune fils, Michael, qui se battait contre une maladie grave, de tout faire pour réaliser ce rêve, de partir dans l'espace. Alors, comme elle ne peut pas renier son serment, elle va se lancer à corps perdu dans l'aventure. Et elle va rencontrer un petit groupe de candidats. Ce sont eux, les extraordinaires. C'est vraiment un bouquin d'été. Alors, c'est le bouquin d'été par excellence. Un lecteur a écrit chez Babelio, ce que j'aime chez Sandrel, ce sont ces personnages tellement touchants, comme Anna dans ce roman, que son ami proche et sa famille vont pousser à se confronter à son rêve. Ce que j'aime chez Sandrel, ce sont ses messages, plutôt des manières de penser qui s'éloignent de l'égoïsme ambiant, des façons d'être respectueuses des autres, de l'environnement et donc, par extension, de soi-même. Voici un extrait de « Les Extraordinaires » de Julien Sandrel, lu par Anne Le Contour.
Toujours est-il qu'après avoir entendu Béatrice déclamer son envie de devenir secrétaire et Marion sa volonté d'embrasser une carrière d'esthéticienne, je ne me souviens plus de ce que je dois dire. Quand j'avais exprimé mon rêve à Monsieur Dubois, il m'avait observé d'un air contrit. « Voyons, Anna, c'est impossible pour une petite fille. Trouvons autre chose, veux-tu ?» Lorsque la musique s'arrête, je n'ai pas encore dit mon texte. Je suis censée clore la séquence, mais je suis comme paralysée face au micro. L'agacement se lit sur le visage de Monsieur Dubois qui m'invite à m'exprimer à grand renfort de gestes saccadés et mâchoires crispées. Madame Galibert lui demande à voix basse si elle doit rejouer quelques mesures, mais il lui fait signe que non, Anna va dire son texte sans musique et tout ira bien. Monsieur Dubois me souffle même ma phrase à deux reprises. « Quand je serai grande, je serai vendeuse en prêt-à-porter. » Mais je ne veux pas être ce qu'il me souffle. Ce n'est pas moi, pas ce dont j'ai envie. Le silence est total. Les spectateurs ont compris que mon mutisme est une effraction dans ce plan millimétré. Tous sont pendus à mes lèvres. Mon père m'observe, lui aussi. Je vois d'abord passer une ombre dans son regard, et puis ses yeux se mettent à briller. Il hoche la tête et me sourit. Il m'encourage. Je me sens pousser des ailes. Alors je prends une grande inspiration et je décide de révéler cette ambition secrète, tapie au fond de moi, de lui donner corps afin qu'elle se transforme, peut-être un jour, en réalité. Quand je serai grande, je serai astronaute. À l'époque, aucun Français n'a jamais effectué de vol spatial. Et sur 94 individus ayant obtenu ce privilège, une seule femme, une Russe. L'assistance pense assister à l'un de ces mots naïfs d'enfant. Et puis, cette note humoristique est une façon originale de conclure le spectacle. Alors le directeur de l'école émet un petit rire gêné et tout le monde le suit, y compris un monsieur Dubois, visiblement furieux, mais qui pense à cet instant avoir sauvé les apparences. C'était contessant la voix fluette de Béatrice revenue au micro sans que je m'en aperçoive. « En vrai, moi, je voudrais être footballeuse. » Béatrice gratifie l'assemblée d'un sourire édenté, puis passe le micro à Marion, qui n'aime pas tellement le métier qu'on lui a demandé de dire et qui se verrait plutôt inventer toutes sortes de machines électroniques. Puis à Églantine, qui se préférerait pilote d'avion. Et enfin à Mélanie, future présidente de la République. Tandis que le public hésite sur la conduite à tenir et qu'un brouhaha ajoute à la confusion de l'instant, je cherche mon père du regard. Il me fixe intensément. Et ce que je vois dans ses yeux, c'est une lueur éclatante de fierté. Alors, debout au milieu des spectateurs, mon père se met à applaudir. Il sourit, frappe furieusement dans ses mains, lance un premier « Bravo !» puis un deuxième, et sa ferveur contagieuse finit par entraîner une bonne partie des rangs de parents. Ce moment inoubliable reste la seule et unique standing ovation de ma vie. L'année suivante, le directeur décida de bannir tout micro de la grande scène. Et M. Dubois opta pour un spectacle de mime particulièrement apprécié.
Non mais c'est complètement irrésistible, c'est complètement irrésistible. Les Extraordinaires de Julien Sandrel, lu par Anne Le Coutour. Je pense avoir dit Le Contour tantôt, mais je me suis trompée, c'est Le Coutour. Après Les Extraordinaires, oh, quelque chose d'irrésistible aussi. Ça, j'aime tellement ça. Les histoires des gens quelque chose. Alors déjà, si vous voulez savoir exactement ce qui se cache derrière ce nom, eh bien vous allez tout apprendre dans l'extrait qui va suivre. Vous prenez une famille de 5 garçons, quoique au moment du tome 4, ils sont 6, je pense. Bref, vous y ajoutez un nouveau bébé à naître, qui est maintenant là, une tortue, un cochon d'Inde, une poignée de souris blanches. Vous mélangez bien le tout, sans oublier une mère très organisé, un père champion du bricolage, et puis quelques petits copains d'école à l'imagination débordante. Vous saupoudrez d'une pincée de malice et d'émotion et vous servez aussitôt, voilà, c'est prêt, c'est à consommer sans modération. C'est une chronique familiale inspirée de souvenirs d'enfance, les aventures et mésaventures quotidiennes d'une tribu de garçons entre humour et émotion. Le résumé de ce tome 4, la famille des gens quelque chose au grand complet part à l'hôtel des Roches Rouges, au programme excursions à la mer avec le canoë et les chaussures en plastique qui donnent des ampoules, visite clandestine de l'hôtel à l'heure de la sieste, représentation exceptionnelle du grand cirque Pipolo, sans oublier le passage du Tour de France. Mais là, dans l'extrait qu'on va entendre, c'est avant que les garçons n'apprennent qu'ils partent en vacances.
La grande nouvelle de papa. Un soir, vers la fin du mois de juin, papa est rentré plus tôt du travail. à la façon dont il a grimpé les marches de la villa en sifflotant joyeusement, le nœud papillon en bataille, on a compris qu'il manigançait quelque chose. « Mes gens !» il a lancé. « Tous au jardin pour un apéritif surprise. Cacahuètes, bonne humeur et boissons gazeuses à volonté. »«
Souhait !»
a zozoté Jean E.
« Je pourrais boire autant de souhaits que je voudrais ?»«
Exceptionnellement !» a corrigé maman qui déteste les surprises. « Et à condition de ne pas te ballonner l'estomac. » « Chérie, a rétorqué papa, à soirée exceptionnelle, réjouissance exceptionnelle. Tiens, je crois même que je prendrai un petit whisky. Exceptionnellement, bien sûr. » On s'est tous regardés avec inquiétude. Quand papa est gai comme un pinson, ça ne présage rien de bon. Papa est très fort comme médecin. Mais je ne sais pas pourquoi, ses idées géniales tournent toujours à la catastrophe. Même un apéritif en famille à la veille des vacances d'été. « Et puis, a ajouté papa, si tout le monde est bien sage, j'aurai une surprise à vous annoncer. » Il a agité d'un air malicieux l'enveloppe qui dépassait de la poche de son veston. « Tu ne devines pas, chérie ?»« À part ballonner tout le monde avec des boissons gazeuses, a dit maman en ouvrant des yeux ronds, je ne vois pas du tout ce que tu... »«
Vous nous avez commandé une petite sœur à la famille moderne ?» a suggéré Jean C.
« On va redéménager ?»
a zozoté Jean E.
« Je sais !» s'est écrié Jean D. « Un chien ! On va avoir un chien !»
Papa a secoué la tête et rempoché son enveloppe mystérieuse.
« Vous ne saurez rien. Secret défense jusqu'à l'apéritif. »
Maman, qui est très organisée, a repris la direction des opérations. « Si vous avez cru une minute pouvoir en profiter pour échapper à la douche, les garçons, c'est raté. Tout le monde passe d'abord par la case décrassage. »«
Et sans dispute, a prévenu papa. Sinon, apéritif surprise ou pas, ça va barder pour vos matricules. »«
Dern, a fait Jean C quand on s'est retrouvés tous les cinq dans la salle de bain. »
« Non, c'est moi, dit Jean D. Les grands d'abord, j'ai dit. Pas question qu'on s'essuie dans vos serviettes trempées. Moi, de toute façon, Rican et Jean A, ça fait 13 ans que j'ai pas pris de douche. C'est pas des bananes comme vous qui vont m'y obliger.
Je n'aimerais pas être à la place de tes vieilles chaussettes, a remarqué Jean C en se pinçant les narines.
Tu en veux une dans la figure, a riposté Jean A.
Si on faisait une bataille d'eau, a proposé Jean D.
D'accord, j'ai dit. Mais on mouille pas les montres ou ça va saigner.
Plus un zeste ou je tire.
A zozoté Jean E en braquant sur nous la pomme de douche. Alors forcément, ça a dégénéré. On a commencé à remplir d'eau des flacons vides pour s'arroser jusqu'à ce que papa intervienne. Heureusement que Jean F est trop petit pour s'en mêler lui aussi. Sinon, on aurait pu dire adieu à la soirée apéritif surprise. Vivre dans une famille de 6 garçons, ce n'est pas facile tous les jours. Il faut toujours tout partager. La salle de bain, les jeux, les bons desserts, les vêtements trop petits et même chez nous, ce qu'on a de plus personnel normalement, son propre prénom. Parce que, en plus d'être 6, on s'appelle tous Jean quelque chose. Une autre idée géniale de papa, comme celle de nous classer par ordre alphabétique, comme dans un répertoire téléphonique. Jean A, surnommé Jean Neymar, c'est l'aîné. Il passe sa vie à râler et à vouloir être le chef. Comme il a dansé avec une fille, une fois à une boum, il nous prend tous pour des débiles. Moi, c'est Jean B, surnommé Jambon, parce que je suis le plus costaud de la famille. Jean A dit, le plus gros, mais avec des muscles de crevette. Il peut toujours parler. Comme on est les grands, Jean A et moi, on a un peu plus d'argent de poche que les autres. Mais c'est aussi toujours sur nous que ça retombe en cas de bêtises. En dessous, il y a les moyens. Jean C, alias Jean sais rien. L'étourdi de la famille, et Jean D, appelé Jean Dégas à cause de son habileté légendaire. À eux deux, ils font vraiment la paire. Leur chambre est tellement en désordre qu'il faut envoyer une équipe de spéléo-professionnels chaque fois qu'on veut y retrouver quelque chose. Pour finir, il y a les petits. Jean E, alias Jean E, parce qu'il a un cheveu sur la langue, et le bébé Jean F, appelé Jean Fracas, qui casse les oreilles de tout le monde dès qu'il n'est pas content. Ajoutez à cela Wellington et Zakuski, les poissons rouges de Jean E, Batman, le chinchilla de Jean C, et vous aurez la famille des gens au complet, rassemblée ce soir-là, dans le jardin de notre villa de Toulon, pour l'apéritif surprise de papa. Pendant qu'on laissait couler la douche pour faire croire qu'on se lavait, maman avait préparé une table de fête. Il y avait des petites gougères, mon plat préféré, des canapés au saumon et à la crème d'anchois, berk. Une jatte de fromage blanc aux herbes pour y tremper des crudités, le plat préféré de Batman et de maman. Et puis, bien sûr, plein de biscuits d'apéritif et de cacahuètes avec lesquels Jean C et Jean D ont commencé aussitôt à se bombarder. Papa s'était servi un petit whisky et il était de super humeur. Il ne s'est même pas fâché quand Jean A, à force de se ballonner l'estomac avec des boissons gazeuses, s'est mis à rôter sans pouvoir s'arrêter. Ni même quand il a trempé par distraction une branche de céleri dans l'aquarium de Wellington et Zakouski, que Jean, eux, avait posé sur la table pour qu'il profite aussi de la fête.
C'est pas la première fois que je diffuse les histoires des gens quelque chose, mais que voulez-vous, j'adore ça. En principe, c'est fait pour les enfants de 8 à 10 ans. C'est ça. Alors, je sais pas si ça les fait rire, mais alors moi, ça me fait rire beaucoup et j'espère que vous aussi, vous avez bien profité de cet extrait-là et de tous les autres que je vous ai présentés à l'occasion de cette émission des Livres Pleins les Oreilles en vacances, toujours animé, réalisé par Clotilde Seille et mis en ondes de par Mathieu Tessier, que je remercie infiniment pour son épaule et son sourire. Voilà, j'espère que ça vous a donné bien des idées de livres à vous glisser entre les oreilles. Je vais en concocter une autre pour la semaine prochaine. Alors d'ici là, bien, bonne semaine, profitez-en bien, que vous soyez en vacances ou non.